Vous écoutez RFI, il est 13h30 à Paris, midi et demi temps universel.
Afrique Midi, Laurence Adou.
Afrique Midi, une heure en direct du studio 158 de la Maison de la Radio. Le temps, 7 degrés à Paris, ciel gris et humide, de la bruine toute la journée. Retour du soleil demain. Afrique Midi, une heure tous les jours ensemble et tout de suite bien sûr, le journal. Madame, Monsieur, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Les deux diplomates canadiens et les quatre touristes européens dont on était sans nouvelles au Niger ont été enlevés par Al-Qaïda. Message diffusé cette nuit sur la chaîne de télévision Al Jazeera. De nombreuses réactions après la signature d'un accord entre le gouvernement soudanais et les rebelles du MJE, très actifs au Darfour. Satisfaction de l'ONU. En revanche, réprobation du MLS, un autre mouvement rebelle pour qui cette signature est une mascarade. La Guinée-Conakry, le groupe de contact international demande aux militaires au pouvoir un calendrier clair, précis, pour organiser des élections d'ici 2009. La Guinée équatoriale, que s'est-il passé au juste hier à Malabo lorsque des hommes armés ont tenté d'attaquer la présidence en l'absence du chef de l'État? Qui étaient les assaillants? Que voulaient-ils exactement? On essaie d'y voir plus clair avec Max Linigergouma. Il a travaillé 2 ans là-bas pour l'UNESCO. Il est l'invité de l'actualité. Interview à suivre dans un peu plus d'un quart d'heure. À suivre encore les sports, à la une aujourd'hui cyclisme et le 7e tour du Cameroun et un critérium à Garoua, 109 km. Pour en savoir plus, Eric Memrut, rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Afrique Midi, seconde partie, 14h10, ils ont leur mot à dire. Aujourd'hui, musique avec José Marinho. De la musique dans la vitrine d'un grand magasin à Paris, c'est bizarre, insolite, étrange, et c'est pour ça que ça nous a plu. Mention spéciale avec Zora Sotti, décernée aujourd'hui à Blandine Awansu, la première femme taximoto à Cotonou. Saveur, tradition, Sayouba Traoré, tout sur le jus de tamarin dont la pulpe a de nombreuses vertus, remède contre la nausée et les grosses fatigue. Afrique Midi, une heure d'info, nous sommes en direct. Bienvenue, bonjour à tous.
RFI.
Le message a donc été diffusé là, cette nuit, sur la chaîne Qatari Al Jazeera. La branche nord-africaine d'Al-Qaïda a revendiqué l'enlèvement des deux diplomates canadiens et de 4 touristes européens au Niger. Les deux Canadiens avaient été enlevés le 14 décembre dans la région de Tillabéri, au Niger, avec leur chauffeur. Quant aux touristes européens, c'est à leur retour d'un festival nomade à la frontière malo-nigérienne qu'ils ont été enlevés. C'était le 22 janvier. Bref, Christine Muratet, cette revendication était attendue depuis le semaine.
Oui, on attendait cette revendication donc depuis des semaines et c'est par le biais de la chaîne télé Al Jazeera que la branche nord-africaine d'Al-Qaïda revendique donc cet enlèvement de Robert Fowler et Louis Gay et des 4 touristes, un couple suisse, une allemande et un britannique. Pas de vidéo, mais un enregistrement audio diffusé cette nuit sur les ondes. Sur le document sonore, le porte-parole d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Salah Abou Mohamed, déclare qu'il transmet à la nation islamique la bonne nouvelle du succès des Moudjahidines dans la réalisation de 2 opérations de qualité au Niger. Il poursuit en indiquant que les Moudjahidines se réservent le droit de gérer le cas de ces 6 otages selon la charia, la loi islamique. Rien en revanche sur les mobiles de ces enlèvements et sur les demandes des preneurs d'otages. Aucune mention non plus du chauffeur des diplomates canadiens, le Nigérien Soumana Moukaïla. Début février, une preuve de vie des 2 diplomates onusiens a été adressée au Canada par les ravisseurs. Sur cette vidéo, on voyait les 2 Canadiens entourés d'hommes en armes, mais cette vidéo ne comportait aucune indication de date d'enregistrement. Alors, dans le mode opératoire d'Al-Qaïda, une telle revendication formelle pourrait signifier que les otages sont bien vivants. Les autorités canadiennes ont d'ailleurs sollicité récemment une nouvelle preuve de vie de leurs compatriotes. Par le passé, Al-Qaïda au Maghreb islamique a libéré ses otages européens contre la remise de rançon. C'est en quelque sorte une piraterie terrestre qui est en train de se constituer dans cette zone sahélo-saharienne.
Christine Muratet, et à propos de la sécurité dans la zone sahélo-saharienne, on vient de l'apprendre, le sommet des chefs d'État qui devait se tenir là, demain, à Bamako, vient d'être reporté à une date ultérieure, sans plus de précision pour l'instant. Le gouvernement soudanais et les rebelles du MJE, très actifs au Darfour, ont signé hier à Doha, au Qatar, une déclaration d'intention qui doit aboutir à des négociations, puis à une conférence de paix sur le Darfour, justement. Alors, beaucoup de réactions, celle par exemple du secrétaire général de l'ONU qui a salué cet accord, celle des États-Unis qui indique que ce texte n'a aucun lien avec le sort réservé au président soudanais Omar al-Béchir, qui pourrait être inculpé pour crime au Darfour par la Cour pénale internationale. Réaction encore, l'ambassadeur soudanais aux Nations Unies salue cet accord comme un tournant dans la crise au Darfour, Mohamed Abdel Mahmoud Abdahalem, qui précise que les négociations vont se poursuivre jusqu'à un accord final dans un délai qui ne doit pas excéder 3 mois. Écoutons-le.
Good news for the people of the Sudan and for all peace-loving countries.
C'est une bonne nouvelle pour les Soudanais et pour tous les pays qui aiment la paix. C'est un accord basé sur la bonne volonté et qui permettra de restaurer la confiance en vue d'un règlement des problèmes du Darfour. Le gouvernement et le MJE vont poursuivre les discussions pour bâtir un cadre et établir des règles de négociation. Ils expriment aussi leur détermination à parvenir à un accord d'ici 3 mois, un accord final où ce sont les urnes et non les armes qui parleront. Au cours de ces discussions, le MJE et le gouvernement ont vraiment fait preuve d'un grand sérieux. Leur objectif est d'arrêter ce conflit le plus rapidement possible. C'est un accord solide et je pense que c'est aujourd'hui une bonne nouvelle pour le peuple soudanais.
L'ambassadeur soudanais aux Nations Unies au téléphone avec Alexandra Branjon. Une réaction encore, réaction de désapprobation cette fois, réaction du MLS. C'est l'un des principaux mouvements rebelles du Darfour. L'accord signé entre le MJE et le gouvernement soudanais est une mascarade, comme nous le dit le responsable du mouvement.
Depuis le début, nous refusons cet accord et ce pour 3 raisons. D'abord, il n'y a toujours pas de sécurité au Darfour. La situation est même en train d'empirer. De plus, les exigences du MJE sont des exigences particulières, comme obtenir la libération de leurs frères emprisonnés. Ou alors, ils ont des motivations idéologiques, comme obtenir la libération du leader islamiste Al-Tourabi. Et cela nous amène à la deuxième raison qui nous pousse à refuser cet accord. C'est un accord signé entre des islamistes radicaux afin qu'ils puissent se réconcilier entre eux et rester au pouvoir indéfiniment à travers l'instrumentalisation de la crise de Darfour. La troisième raison, c'est que ces pourparlers de Doha ont pour but de suspendre la procédure engagée contre El-Béchir par la Cour pénale internationale, mais nous nous battrons contre cela et nous déjouerons ce complot contre notre peuple.
Abdou Waïd Al-Nour, que Olivier Roger a eu au téléphone. Au Tchad, le président Déby effectue une tournée dans l'est du pays après Mongo, Amtiman et Gospeida. Il est arrivé hier à Adé, où il a demandé aux militaires d'assurer la sécurité de la frontière entre le Tchad et le Soudan. Désormais, en cas d'agression soudanaise, le Tchad usera de son droit de poursuite, a-t-il souligné. Journée très attendue hier à Kidal, dans le nord du Mali. Plusieurs centaines de rebelles Touareg ont déposé les armes et réintégré le processus de paix. Reportée plusieurs fois, cette cérémonie officielle s'est déroulée sur l'aérodrome de la ville, en présence notamment de responsables maliens, de la médiation algérienne et donc des rebelles ayant quitté le maquis. Ils ont déposé les armes, Kalachnikov, grenades et lance-roquettes. Et la satisfaction d'Elbekrim Graïb, médiateur algérien, ambassadeur d'Algérie au Mali.
Vous avez vu, les gens de l'Alliance étaient tous là. Tous ceux qui étaient éparpillés, qui sont rentrés d'un côté ou de l'autre, sont venus ici. Nous pensons que cette fois-ci, les partis, c'est-à-dire l'Alliance et le gouvernement, vont tirer les leçons qu'il faut, leçons des difficultés que nous avons rencontrées ces derniers temps, pour avancer dans l'application stricte de l'accord d'Alger. La prochaine étape, c'est replacer les 500 personnes que vous avez vues dans les unités spéciales, réintégrer ceux qui étaient au sein de l'armée, les réintégrer, réintégrer ceux qui devaient aller vers la formation et s'occuper surtout des jeunes, des 300 ou 400 jeunes, dans le cadre de la réinsertion socio-économique.
Vrai Makbanga dans ça?
Tous ces éléments sont là, sauf lui.
Pas tous, quelques-uns sont restés avec lui.
Je ne pense pas qu'ils soient beaucoup.
L'ambassadeur d'Algérie au Mali, au micro de Serge Daniel.
RFI, toute l'actualité, Laurence Adou.
Nous faisons maintenant un détour par la Guinée-Conakry, où la communauté internationale est très claire là-dessus. Elle veut qu'un calendrier clair, précis, soit établi pour aller à des élections d'ici la fin 2009. Voilà ce qu'a réclamé hier soir le groupe de contact, groupe mis en place après la prise du pouvoir par les militaires le 23 décembre dernier, groupe qui rassemble rappelons-le d'un mot, notamment la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine, l'ONU et l'Union européenne. Mokhtar Ba, vous êtes le correspondant de RFI à Conakry. Alors, à quand des élections? C'est là toute la question.
Après deux jours de travaux, quel bilan peut-on tirer de la mission du groupe de contact international sur la Guinée? Mohamed Ibn Chambas est le président de la commission de la CEDEAO et co-président du sommet de Conakry.
On a eu de bonnes discussions avec les parties prenantes. Nous pensons qu'il y a quand même à ce moment un moment aller vers les élections fin d'année. Donc le groupe de contact va continuer de travailler avec le Guinéen pour que la transition se déroule dans la paix, mais aussi que toutes les forces vives participent dans le processus pour construire une vraie démocratie ici en Guinée.
Même à défaut d'un calendrier précis, les parties prenantes fondent beaucoup d'espoir dans la déclaration du chef de la junte. Selou Dalein Diallo est le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée.
Si je me fie au compte-rendu qui vient d'être fait par le groupe de contact à l'issue de la dernière rencontre qu'il a eue avec Monsieur le Président de la République, j'ai compris que nos revendications sont pour la plupart acceptées. Ce qui est plus urgent, c'est la levée de la suspension des activités politiques et syndicales. Et ensuite, l'acceptation formelle et sans ambiguïté de la durée de la transition.
Mokhtar Ba, Conakry, RFI.
Revenons maintenant sur ce qu'il s'est passé hier en Guinée équatoriale, lorsque Malabo a été réveillé très tôt, sur les coups de 5 heures du matin, par des tirs d'armes automatiques. Selon les autorités, ce sont des rebelles du delta du Niger qui ont mené cette attaque, assaut qui a été repoussé après environ 3 heures de combat, et les hélicoptères d'ailleurs de l'armée sont entrés en action. Attaque qui a fait plusieurs morts, au moins un soldat a été tué, ainsi qu'un assaillant. Alors que dire de ce petit pays et pourquoi suscite-t-il autant tant de convoitises? Eh bien, la Guinée équatoriale regorge de pétrole, on le sait depuis 20 ans, mais sur le plan politique, c'est un pays qui, disons-le tout net, reste fermé à toute opposition, dirigé depuis des années et des années par un seul homme, le président Teodoro Obiang Nguema. Un pays, Marie-Pierre Olfan, où les complots et les tentatives de coups d'État réels ou présumés se sont multipliés ces dernières années.
Teodoro Obiang Nguema est arrivé au pouvoir en 1979 par un coup d'État, et depuis 30 ans, il n'a cessé d'être lui-même objet de déstabilisation. Dans ce petit pays, baptisé Koweït de l'Afrique depuis le boom pétrolier des années 90, la corruption est réputée être l'une des plus élevées du continent et l'opposition politique peine à exister. La première tentative de putsch date de 1983, les complots et les insurrections s'enchaînent en 1986, 1994 et 98. En 2002, 60 personnes sont condamnées pour tentative de coup d'État. En 2004, pour la même accusation, ils sont plus de 70 à être arrêtés au Zimbabwe et en Guinée équatoriale. Le cerveau présumé, le Britannique Simon Mann, est condamné à 34 ans de prison. Mais selon les autorités, le véritable instigateur de ce putsch est l'opposant en exil, Severo Moto. En Guinée équatoriale, les complots ne sont pas que politiques. Il y a un mois, le couple présidentiel a été la cible de deux de ses employés qui ont réussi à lui dérober l'équivalent de 6 millions d'euros en argent et en bijoux. Preuve du train de vie d'un président qui s'est autoproclamé capitaine général en 2007, le plus haut grade de l'armée en Guinée équatoriale.
RFI Paris, merci de nous écouter. 13h43. La République démocratique du Congo et les négociations de Nairobi, avec une idée en tête, aboutir au règlement des revendications des rebelles du CNDP. Eh bien, les discussions ont été ajournées il y a un mois. Et depuis, le chef rebelle, Laurent Nkunda, a été mis aux arrêts au Rwanda. Et une nouvelle direction autoproclamée du CNDP s'est ralliée au régime de Kinshasa. Et aujourd'hui, à Goma, la délégation gouvernementale entame des discussions avec cette nouvelle direction, justement. Et Ghislaine Dupont, visiblement, le cahier des charges, disons-le comme ça, a été très allégé.
Selon nos informations, un mémo a été remis à l'un des médiateurs des Nations Unies, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. En préambule de ce texte, la nouvelle direction politique du CNDP ne fait référence qu'à ce qui concerne les rwandophones de la province, les Hutus et Tutsis congolais. Une position récusée par plusieurs responsables politiques et militaires du CNDP nkundiste. Ce n'est pas du tout l'idéologie du CNDP, dit l'un d'entre eux. Notre mouvement ne peut se réduire à un combat pour les rwandophones. Négocié sur la base de l'exclusion, conclut ce responsable irresponsable ne peut amener qu'à rendre la cohabitation entre communautés encore plus difficile. Un constat, le nouveau chef du mouvement, Désiré Kamanzi, cautionné par Kigali pour remplacer Laurent Nkunda, semble avoir bien du mal à imposer son leadership. De nombreux cadres souhaiteraient aujourd'hui convoquer un congrès du mouvement pour vider cette question du leadership. Quant à l'intégration des troupes du CNDP aux forces armées congolaises, elle ne serait toujours pas terminée. Le CNDP garderait encore la moitié de ses troupes, confie un observateur étranger. Plusieurs inconnus subsistent. Que se passera-t-il si les revendications politiques et sécuritaires du CNDP n'aboutissent pas? L'intervention de l'armée rwandaise au Kivu a imposé une neutralisation des rebelles du CNDP, mais une fois les militaires rwandais partis, de nombreux Congolais se demandent si le Kivu ne va pas se retrouver à la case départ.
Madagascar, toujours et encore, c'était une journée de transition. Hier, à Antananarive, les partisans du maire d'Échi, Andra Zoel, ont voulu marcher sur les ministères, mais ils ont été bloqués par les forces de l'ordre. Mais le ministre de la Défense, ministre légitime, ministre du gouvernement de Marc Rabadomanane, est venu parlementer avec les représentants de l'opposition et il n'y a eu aucune violence. Grégoire Pourtier, vous êtes sur place pour RFI. Alors que les négociations se poursuivent en coulisses, l'essentiel de la population, dite la majorité silencieuse, espère une sortie de crise au plus vite.
Il faut parler de nous. Bien sûr, on veut que le président change d'attitude, mais on ne soutient pas non plus Ange TGV qui veut prendre le pouvoir dans la rue. Ces remarques, les journalistes les entendent souvent. Focalisés sur les communiqués officiels du régime et sur les gesticulations de Ange Radzoel, peut-être néglige-t-il en effet cette majorité silencieuse qui subit une crise qu'elle n'a pas souhaitée. Les prix des produits de première nécessité ont augmenté et des petites gens aux gros chefs d'entreprise, l'activité de beaucoup est ralentie. Surtout, ils sont nombreux à ne plus croire à l'action politique et à être exaspérés par cette guerre des chefs dont ils ne voient pas l'issue. La situation économique était extrêmement difficile avant, Ravalomanane n'a pas su tenir ses promesses. Mais est-ce que Radzoel pourrait faire vraiment mieux, disait l'autre jour un cadre moyen. Quoi qu'il se passe, il faudra en outre du temps pour remettre à flot de nombreux pans de l'économie, paralysés depuis 3 semaines. Le tourisme, qui décollait littéralement ces derniers temps, sait déjà qu'il va vivre une année noire et les opérateurs s'inquiètent même pour 2010 puisque les catalogues sont en cours de confection. Grégoire Pourtier, Antananarive, RFI.
Une pause, une minute, la météo, les titres et l'invité de l'actualité. Que s'est-il passé hier en Guinée équatoriale?
Il ne pouvait pas aller lui-même mettre de l'essence dans son dérouillé.
Hé, hey, Sidiki, tais-toi et pousse.
J'ai trop mal partout. J'ai besoin d'un petit remontant.
Bon, d'accord, pousse. Attends, il me reste encore un comprimé d'essai à semer. Tiens.
Yeah. Souké, c'est quoi ça? De la cola en comprimé?
Sidiki, tu vois, un seul comprimé d'essai à semer contient la vitamine C de 17 oranges et le calcium d'un verre de lait fournissant 1000 mg de vitamine C. C'est la dose utile pour t'aider à revenir au top. C'est assez 1100 doses. C'est 1000% d'énergie en plus.
Médicaments réservés à l'adulte de plus de 15 ans. Demandez conseil à votre pharmacien.
Les 19, 20 et 21 février, retrouvez RFI au cœur du forum de Bamako. Consacré cette année à la gouvernance, le forum réunit experts, universitaires et politiques du continent africain. Le forum de Bamako du 19 au 21 février avec RFI. Info sur RFI.fr.
La carte postale météo, le plus chaud aujourd'hui, N'Djamena à 39 degrés, 35 à Conakry, 34 à Khartoum, 33 à Bangui, 32 à Niamey, 31 à Brazzaville, Kinshasa à Yaoundé, 29 pour Abidjan et Libreville, 28 à Bamako, Lomé et Nouakchott, 26 à Dakar, 23 pour Addis Abeba et Ouaga, 22 à Bujumbura et Antananarive. Coup d'œil au Maghreb, 12 à Tunis, 14 à Alger, 20 à Rabat. Mercredi 18 février, RFI, les titres.
Laurence Adou.
La crise en Guadeloupe où au moins après un mois de grève et de colère, on tourne à la violence, la mort d'un syndicaliste cette nuit à Pointe-à-Pitre. Il n'a pas été tué par les gendarmes, insiste la préfecture et le ministère de l'Intérieur. La Guadeloupe, on en parlera cet après-midi au sommet social de l'Elysée. Un sommet de crise après la mobilisation réussie des syndicats du mois dernier. Bruxelles rappelle à l'ordre 6 pays pour déficit excessif. La procédure lancée par la Commission européenne vise notamment la France et l'Espagne. 17 000 soldats américains de plus pour l'Afghanistan, annonce faite par Barack Obama. Le nouveau gouvernement, le gouvernement de Guinée équatoriale, dit que le coup vient des rebelles du Nigeria, ceci démente. Alors question, qui a attaqué la ville de Malabo il y a 24 heures? Le Suisse Max Ligniger Gouma a travaillé 2 ans à Malabo pour l'UNESCO. Récemment, il a publié chez l'Harmattan « La Guinée équatoriale convoitée et opprimée ». Il est votre invité, Christophe Boisbouvier.
Max Ligniger Gouma, bonjour.
Bonjour.
jour.
Alors au lendemain de cette attaque de Malabo par la mer, quelle est la piste que vous privilégiez ?
Je crois que ce qui s'est produit relève tout de même du banditisme, mais il faut quand même prendre note du fait que le Maine n'a pas participé, d'après ses dires, à cette affaire, qui d'ailleurs me semble monter de façon très légère. Si le mouvement d'émancipation du delta du Niger avait voulu occuper l'île de Bioko, sur laquelle se trouve la capitale, Malabo, ils auraient certainement utilisé davantage d'embarcations. Mais il y a une autre hypothèse, c'est celle d'un simulacre d'attaque par des gens au service du régime de Obiang Nguema. Ça se faisait déjà du temps de son oncle, Macias Nguema. Donc, peut-être, en fait, Obiang Nguema cherche-t-il une fois de plus à montrer qu'il est un pauvre chef d'État exposé à des bandits venant de l'extérieur.
Alors, tout le monde se souvient de cette opération manquée des mercenaires sud-africains en mars 2004, avec peut-être la complicité de l'opposant en exil Severo Motto. Est-ce que l'opération d'hier pourrait être liée à celle de 2004 ?
J'ai pas tellement l'impression. Je connais personnellement Motto Nsah. Je pense en tout cas pas que Motto Nsah soit impliqué, même s'il reprend de la puissance à l'extérieur, en Espagne, à la tête du gouvernement en exil de Guinée équatoriale. À l'intérieur, le plus probable, si c'est une tentative de coup d'État venant de l'intérieur, ça pourrait être l'œuvre d'un membre de la famille.
Du président Obiang Nguema ?
Oui. Mais ça me paraît tout de même difficile à croire. Parce que je ne sache pas que ces membres de la famille aient ces derniers temps su réunir suffisamment d'hommes pour tenter de déplacer Obiang Nguema, qui est largement entouré, et c'est pour ça qu'il a tous ces Marocains, ainsi que les Israéliens pour la garde présidentielle, les sociétés de mercenaires américaines pour garder les installations au large de l'île de Bioko ou au large du Rio Muni, et Obiang Nguema est très bien protégé.
Apparemment, les assaillants visaient la présidence hier, non ?
Vous savez, récemment, c'est une petite anecdote, il y a à peu près un mois, à Bata, on a arrêté un petit-fils d'Obiang Nguema, un des fils de Théodorine, parce qu'il était parvenu à voler 6 000 $ dans un petit local du palais présidentiel où Obiang probablement garde ses économies. Et je pense que les attaquants du palais présidentiel à Malabo, c'est peut-être même la nouvelle de Bata qui les a inspirés.
Alors c'est vrai qu'il y a des précédents à Bata sur la partie continentale de la Guinée équatoriale en décembre 2007 et puis à Limbé au Cameroun en septembre 2008 et à chaque fois les assaillants venaient de la mer et ont braqué des banques. Mais tout de même là il s'agit de Malabo et on vise le palais.
Oui, mais comme le régime d'Obiang Nguema, l'ordre y est plutôt un désordre. L'ensemble du pays compte 2000 soldats seulement. C'est un pays où il peut se produire n'importe quoi, n'importe quel moment, à Malabo.
Max Liniger Gouma, merci.
Messieurs, merci. Bonne journée. RFI 13h53, les sports. Éric Memrut, bienvenue, bonjour.
Bonjour.
Cyclisme, le 7e tour du Cameroun, suite avec aujourd'hui la 2e étape.
Une étape en ville, 109 km dans les rues de Garoua. Hier, c'est un Burkinabé qui s'était illustré lors de la première journée. Victoire d'étape à Maroua et un maillot jaune pour Oudou Sawadogo. Aujourd'hui, c'est un Camerounais qui l'a emporté, Martinien Tega, vainqueur devant son compatriote Sadrak Teguima. Pas de changement au classement général. Sur place, notre envoyé spécial Philippe Zigraf.
Les Camerounais ne voulaient pas quitter le Nord sans une victoire. À défaut de maillot jaune, ils ont réussi un beau doublé à l'issue d'un critérium passionnant et toujours sous les yeux d'une foule considérable. 6 tours d'un circuit d'un peu plus de 18 km sous une température moins écrasante que la veille, il n'en fallait pas plus pour titiller les ardeurs du peloton. Les attaques ont fusé dès le départ, la plus belle échappée s'est formée à la fin du premier tour avec les Camerounais Tamazou et Tekou accompagnés du Burkinabé Rasman Ouedraogo, pas très coopératif et c'était logique. Tekou était quatrième du général à 1,27 de sa à Ouagadougou. Les trois hommes resteront en tête pendant trois tours. Après le regroupement général, Teguima sort du peloton, le nez dans le guidon. Le Camerounais, au bandana rouge, tiendra le choc le plus longtemps possible avec une avance maximum de 20 secondes. Il sera rejoint par son coéquipier Martinien Tega et l'Ivoirien Bolodigui Ouattara. Ces trois-là joueront l'étape au sprint. Victoire de Tega devant Teguima et Ouattara. Le peloton arrive à 16 secondes. Grosse frayeur pour le maillot jaune. À 500 mètres de l'arrivée, Udo Sawadogo est tombé, mais le règlement l'a sauvé. À moins d'un kilomètre de la ligne, il stipule qu'un coureur qui chute est classé dans le même temps que le peloton. Ce jeudi, cap au centre avec la première grosse difficulté du tour, la fameuse falaise de Ngaoundéré, 17 kilomètres de montée. Excellent grimpeur, les Camerounais ont promis de prendre le maillot. Philippe Zigrave, Garoua, RFI.
Et au général, malgré sa chute, le Burkinabé Udo Sawadogo reste donc leader avec 4 secondes d'avance sur le Camerounais Joseph Sanda.
Football avec le coup d'envoi aujourd'hui des 16e de finale aller de la Coupe de l'UEFA.
Après les phases de poule, place au match à élimination directe. 4 clubs français sont encore en course. Marseille jouera demain contre les Néerlandais de Twente. En fin d'après-midi, l'AS Saint-Etienne affrontera l'Olympiakos Le Pirée en Grèce. Bordeaux accueillera ce soir les Turcs du Galatasaray Istanbul. Et puis le Paris Saint-Germain va jouer au Parc des Princes contre les Allemands de Wolfsburg. Le PSG, dont la priorité cette saison est le championnat, va du coup aligner une équipe bis. Makelele, Djouli et Sessegnon seront sur le banc. Paul Le Guen a choisi d'aligner d'entrée Mamadou Sakho, Sami Traoré le Malien, Peggy Luindola, Guillaume Oa ou encore Jérôme Rotten, l'ailier gauche parisien qui, malgré cette rotation dans l'effectif, ne veut pas brader cet objectif européen. Jérôme Rotten, on l'écoute au micro de Radio France.
On s'est battu l'année dernière pour faire des matchs de Coupe d'Europe en gagnant cette Coupe de la Ligue et on s'est encore rebattu pour sortir des poules, donc c'était pas évident, on se rappelle du contexte, donc voilà, on s'est offert un match aller-retour, un 16e de finale. Voilà, l'objectif, c'est de s'imposer, de passer ce tour pour essayer de rêver un peu plus aussi en Coupe d'Europe, comme on peut le faire en championnat actuellement.
PSG Wolfsburg et Bordeaux Galatasaray, coup d'envoi 19h45, temps universel. Olympiakos Saint-Etienne débutera 2h avant.
Et pile à l'heure, Eric Mamrut. Restez avec nous, Afrique Midi, suite après les infos de 14h. Ensuite, ils ont leur mot à dire avec aujourd'hui José Marinho, Zora Sotti et Sayouba Traoré. Et puis dans 30 secondes, juste après la pub, le sourire de l'indispensable Maman. Très bonne journée, à tout de suite.
Dans Jeune Afrique cette semaine, RD Congo, les mystères de Kinshasa, la guerre secrète des Américains, le cas Laurent Nkunda, la polémique autour des contrats chinois, Kabila et Kamere, chronique d'un désamour, l'enquête de Jia au cœur du régime congolais. Chine-Afrique, le président Hu Jintao est en tournée au Sénégal et au Mali, les dessous d'une visite très politique. Jeune Afrique, l'hebdomadaire qui donne du sens à l'actualité africaine.
Le sourire de Maman. Et comme chaque jour ici, juste avant les infos de 14h, l'ami Maman qui regarde l'actualité de biais, d'en haut, d'en bas, de côté. Maman, bonjour. Aujourd'hui, les troubles sociaux qui paralysent la Guadeloupe et la Martinique sont suivis avec attention, beaucoup d'attention, en République très très démocratique du Gondwana.
Oui, non seulement ils sont suivis avec attention, mais en plus ils ont rendu malheureux beaucoup, beaucoup de gens. Ainsi de Jonas, jeune Gondwanais de 24 ans qui a grandi avec, dans la tête et les oreilles, les chansons de Kassav. Jonas qui pendant des années, sur le chemin du collège et du lycée, ne supportait les piqûres du soleil gondouanais que grâce à la voix de Jocelyne Béroard chantant « Soleil qui a chauffé ». Jonas qui se consolait de ses galères quotidiennes grâce à des comprimés de « Zoukla Sessel Medikamanouni ». Ça, comme ça, à malade, à malade. Jonas qui, le soir venu, fermait les yeux sur son mal-être de futur jeune étudiant chômeur, se rêvant gambadant sur les plages antillaises, jouant des parties de foot tout endiablé avec Thierry Henry, Lilian Thuram et Sylvain Viltord. Le pauvre Jonas, dont le rêve s'est fracassé net il y a quelques jours au pied de son poste téléviseur devant le journal de Gondwana TV, qui lui a montré la Guadeloupe paralysée par une grève générale, les routes bloquées, les queues devant les stations-service, les magasins vides, les écoles et les bureaux fermés, les manifestants réclamant des augmentations de salaire, les forces de l'ordre semant le désordre à coups de matraque. Jonas s'est alors dit « Mais c'est pas possible, c'est comme ici quoi !» Eux aussi sont en train de faire une opération ville-morte, comme on a fait ici pendant des mois jusqu'à fatiguer. On a défilé, manifesté, fait des barrages, les forces de l'ordre nous ont bien gigotés, et président fondateur est toujours là au pouvoir. Pauvre Jonas, quand il a appris que pendant les 15 premiers jours des troubles, les médias français avaient observé un silence religieux sur la situation aux Antilles, il s'est encore dit « comme chez nous quoi ». Ici aussi, ils ont commencé à parler de nous quand les autorités françaises se sont enfin intéressées à notre pauvre sort en évacuant leurs ressortissants vers Roissy Charles de Gaulle et en nous disant « débrouillez-vous, oh, on revient quand vous aurez fini de vous taper dessus, oh ». Bon, ils n'ont pas pu faire la même chose là-bas, puisque Martinique et Guadeloupe, c'est aussi la France. C'est pour ça que Jonas pense que les Antilles feraient mieux de se mettre au franc CFA et d'adhérer à l'Union africaine. Comme ça, les choses seront plus claires.
Voilà, merci beaucoup Maman. À demain, à retrouver aussi sur notre site internet www.rfi.fr. Vous restez avec nous, surtout juste après les infos qui sont à nos portes. Ils ont leur mot à dire. José Marinho, plus fou que jamais, avec de la musique très étrange, très bizarre, très étonnant aussi. Zora Sotti pour une mention spéciale pour une femme. Première taxi moto à Cotonou. Et puis les saveurs et les traditions avec le bon ami Sayouba Traoré. Ils sont quatre, ils sont tout ronds, ils sont très beaux. Ce sont les quatre tops. Et c'est l'heure.